L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui. L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui. L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix à Château-Giron. Et maintenant, je vais vous laisser avec Leïlou.
Bonjour, Leïlou à l'antenne. Voici une chronique présentée par les 5e marines sur le thème « Sauvons notre planète » dans le cadre de l'EPI Radio 5e.
En français, nous avons réfléchi comment sauver la planète. Pour vous partager nos idées, nous avons fait EPI Radio. Nous avons commencé par visiter le studio de Radio Castel, puis nous avons manipulé les objets pour ensuite s'enregistrer. Aujourd'hui, vous pouvez nous écouter et entendre nos idées. Je laisse la parole à Evan.
Nous avons travaillé sur différents sujets, sur le réchauffement climatique, par exemple, la disparition des abeilles, les ours polaires, le plastique. Maintenant, je laisse la parole à Antonin.
Nous avons aussi travaillé en groupe pour avoir plus d'idées et aller plus vite et avoir un bon esprit de groupe.
Bonjour et bienvenue sur la radio Castel, la radio du collège Sainte-Croix 88.1. Aujourd'hui, nous allons vous parler des causes et conséquences de la disparition des abeilles. Les abeilles sont en voie de disparition en 20 ans. De nombreuses espèces ont disparu dans le monde, notamment à cause de l'utilisation des insecticides. Pour en savoir plus, les petits journalistes de Radio Castel Junior ont posé leurs questions à un spécialiste des insectes. Je laisse la parole à Ivan.
Les substances chimiques, les parasites, les monocultures, le frelon asiatique, le changement climatique jouent un rôle dans les surmortalités des abeilles. En effet, les abeilles favorisent la pollinisation des plantes sauvages et cultivées, et elles sont sensibles aux traitements phytosanitaires. Depuis quelques années, le sort des abeilles est devenu inquiétant. Leur taux de surmortalité atteint 30 à 35%, taux anormalement élevé, qui atteint dans certains cas 50% de pertes hivernales.
Alors quelles sont les raisons de leur disparition ?
Dans certaines régions, les abeilles meurent de faim car les monocultures ne leur fournissent pas assez de nourriture. La nature propose pourtant des milliers de végétaux, ronces, fleurs sauvages, pissenlits, orties, noisetiers, tilleuls, châtaigniers, érables, etc., dont certains sont jugés indésirables par les agriculteurs ou jardiniers. Le varroa est un acarien importé d'Asie dans les années 1980. Il décime méthodiquement les ruchers, obligeant les apiculteurs à traiter les ruches avec un produit bio, le thymol, qui est un phénol contenu dans l'huile de thym, ainsi que dans les huiles essentielles de nombreuses autres plantes.
Quels sont les syndromes d'effondrement des colonies ?
Le syndrome d'effondrement des colonies est un ensemble de causes qui provoquent les disparitions des colonies d'abeilles. Par exemple, les substances chimiques et des pesticides dans l'environnement. Les causes pathogènes, le manque de végétaux dû à une agriculture intensive qui réduit la biodiversité, une cause génétique, les abeilles sélectionnées pour leur productivité sont moins adaptées à leur milieu par manque de diversité génétique. Les ravages du frelon asiatique, la pollution électromagnétique, les pratiques des apiculteurs transportent leurs ruches afin de polliniser les cultures et affaiblissent leur essaim par des voyages incessants. Maintenant, je vais laisser la parole à Malo qui va vous en dire plus.
Comme indiqué précédemment, l'abeille contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs. C'est donc une alliée indispensable dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes et de notre agriculture. Or, 30 à 40% des colonies ont été décimées en moins de 10 ans en Europe. Scientifiques et apidologues s'accordent à dire que les 5000 pesticides commercialisés ont une part de responsabilité importante dans ces disparitions. Les apiculteurs l'estiment nuisible pour les abeilles et manifestent aujourd'hui pour le faire interdire. Comme le disait Stagne, si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Vital pour l'homme, certaines de ces cultures ne survivraient pas à la mort des abeilles. Les inquiétudes concernant leur taux de mortalité particulièrement élevé depuis les années 80 sont donc justifiées. De nombreuses enquêtes ont été menées sur les origines de ces disparitions, sans parvenir à s'accorder sur les causes, maladies, parasites ou effets dévastateurs des insecticides. Les apiculteurs et les fabricants de pesticides se contredisent. Pour les apiculteurs, les insecticides désorientent les abeilles, incapables de retrouver leur ruche, elles meurent. Les fabricants préfèrent rejeter la faute sur les prédatrices naturelles des abeilles, la loque. Quant au gouvernement français, il vient d'autoriser le crusier après avoir interdit la vente du régent et du gaucho des produits similaires. L'Agence nationale de sécurité alimentaire a également publié cette semaine un rapport selon lequel les pesticides ne présentent aucun danger pour les abeilles, sans doute pour ne pas effrayer les amateurs de miel. Je vous laisse avec un petit morceau de musique.
Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1 avec Tilani. Aujourd'hui, je vais vous interviewer Justine et Erwan, qui sont des spécialistes de la fonte des glaciers sur le pôle. Bonjour Justine et Erwan.
Bonjour Tilani.
Bonjour Tilani.
Quand est-ce que le pôle Nord est-il découvert et par qui ?
C'est Robert Edwin Parry, un Américain qui a découvert le pôle Nord en 1909.
Et pour le pôle sud ?
C'est Roland Amundsen, un Norvégien qui a découvert le pôle sud en 1911.
Justine et Erwan, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la fonte des glaciers ?
La fonte des glaciers, c'est tout simplement les glaciers et les banquises qui fondent.
Ce phénomène est-il naturel ?
Non, bien sûr qu'il n'est pas naturel. Il est dû au réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers à une vitesse exceptionnelle. La population augmente chaque année, provoquant une hausse de la température mondiale.
Quelles sont les conséquences de ces phénomènes sur la banquise ?
Les conséquences sont importantes. Par exemple, l'ours polaire fait partie des espèces menacées et la fonte des glaciers ne va plus lui permettre de chasser. Les phoques, qui sont eux-mêmes menacés par cette fonte. Un autre exemple, les krills, qui sont la nourriture des baleines, sont aussi amenés à disparaître.
Que sont les krills ?
Les krills sont des petites crevettes.
Les krills disparaissent ? Non, si les krills disparaissent, que devraient les baleines ?
Les krills, les baleines, hélas, disparaîtraient aussi.
Auriez-vous d'autres exemples à nous donner ?
Oui, absolument. La fonte des glaciers fait augmenter très rapidement le niveau des océans et de certaines côtes. Et les îles seront amenées à disparaître.
Merci Justine et Erwan d'avoir répondu à toutes mes questions.
Oh, mais c'était rien. C'était un grand plaisir pour nous.
Oui, je suis d'accord avec Erwan. En plus, c'est bien d'informer tout le monde.
Au revoir, Justine et Erwan.
Au revoir, Tilani.
Au revoir, Tilani.
Merci d'avoir écouté cette interview. Et tout de suite, une pause musicale. Juste après la pause musicale, d'autres groupes vont passer sur d'autres sujets.
Radio Castel, on aime.
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 Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous, c'est Zozo 35 sur Radio Castel 88.1 en compagnie de
Sarah ainsi que
Mathilde. Aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur la pollution d'Internet et sur ses conséquences.
Dans ce reportage, nous allons vous apprendre ce que l'on vous cache depuis des années.
Pour commencer, Internet est-il vraiment polluant ?
Nous nous sommes rendus sur les lieux, un centre de données aussi connu sous le nom de data center.
Cet endroit permet de stocker les données informatiques.
Tout d'abord, nous avons découvert ce qui se cachait derrière l'envoi d'un mail, c'est-à-dire un simple clic sur le bouton « Envoyer », ce qui fait fonctionner des data centers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Par exemple, si on veut envoyer une photo de vacances à 10 destinataires par mail, on fait 500 mètres en voiture.
Il n'y a pas besoin d'arrêter d'envoyer des mails, mais il faut limiter son envoi.
Qu'en est-il des data centers ?
Très bonne question.
Alors, les data centers sont très nombreux à installer des logiciels cloud privés.
L'objectif est de permettre aux utilisateurs de profiter des ressources informatiques sans demander aux administrateurs du réseau.
Il faut savoir que le cloud est un nuage de pollution.
Voici les solutions que l'on peut prendre pour limiter la pollution d'Internet.
La première solution est de bien réfléchir avant de faire une recherche sur Internet en utilisant des mots-clés et mettre en favori pour vos sites préférés.
Nous pouvons également réduire votre temps de lecture sur Internet, envoyer des mails plus faciles à lire, optimiser la taille des documents en pièces jointes et en les supprimant quand on répond aux correspondants.
Il n'y a pas que ça. Nous pouvons aussi conserver que les mails nécessaires et faire un tri régulier dans sa boîte de réception. Installer un logiciel anti-spam et vider régulièrement la corbeille de mails et la boîte de spam.
Et maintenant, nous allons parler de l'article 13.
Mais c'est quoi l'article 13 ?
Eh bien, l'article 13, c'est tout d'abord un article qui parle des droits d'auteur sur YouTube.
L'article 13 est un logiciel qui supprime les vidéos qui ont été faites sans droit d'auteur. Il doit s'assurer qu'aucun YouTubeur ne viole les droits d'auteur. Pour cela, il y a deux solutions majeures.
La première solution est de passer un contrat avec les YouTubeurs. YouTube leur donne de l'argent en échange qu'ils utilisent librement leur contenu.
La deuxième est que, avant de publier des vidéos sur YouTube, YouTube doit examiner la vidéo.
Pour économiser la planète, il faut savoir se servir d'Internet.
C'est la fin de ce reportage, merci de nous avoir suivis.
On espère que cela vous aura plu. Au revoir et à bientôt.
Tout de suite, une pause musicale.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Maintenant, nous allons vous présenter un débat sur les pesticides. Je vous présente Jeanne, qui est contre les pesticides, et je me présente Arthur, qui est pour. Mais d'abord, que sont les pesticides ?
Ce sont des produits chimiques destinés à lutter contre les parasites, animaux et végétaux, nuisibles aux cultures et aux produits récoltés. Il existe beaucoup de catégories de pesticides.
Ce sont majoritairement, les agriculteurs qui les utilisent. 90% sont utilisés sur des champs. Rien que depuis le 1er janvier 2019, plus de 4000 tonnes de pesticides ont été pulvérisées sur des champs en France.
Les 10% restants sont utilisés principalement par des jardiniers amateurs ou bien par des communes pour des lieux publics tels que des voies de transport ou des cimetières.
Bon. S'il n'y avait pas de pesticides, nous perdrions de nombreuses récoltes car elles seraient ravagées.
Peut-être que les récoltes seraient en partie gâchées. Mais si nous réduisions juste considérablement l'utilisation de ces produits, tout le monde y gagnerait. Avec ça, de plus en plus de gens se mettent au bio.
Si tout le monde se mettait au bio, il n'y aurait plus de fruits de saison vendus hors période. Cela embêterait de nombreuses personnes. C'est donc un avantage aux pesticides.
Non. Car des scientifiques ont trouvé une méthode pour faire pousser hors saison pour les faire pousser hors saison et sans pesticides. Donc, les fruits de saison peuvent être produits hors cycle, sans pesticides et avec leur goût d'origine.
Avec ou sans pesticides, les fruits de saison vendus hors période n'ont pas le goût du vrai. De plus, sans ces produits, les fruits de légumes attirent moins et ne donnent pas envie.
D'accord, mais ces produits peuvent ne plus faire pousser vos plantes, car ces produits peuvent tuer les abeilles et ne plus transporter le pollen d'une plante à l'autre.
Oui, mais la pollinisation peut se faire manuellement.
Oui, mais cela peut engendrer des coûts supplémentaires. De plus, la plupart des agriculteurs mettent le plus possible de pesticides, croyant que cela augmentera leur récolte. Cependant, les pesticides s'évaporent dans l'air, ce qui crée des nuages de pollution. Ils s'imprègnent aussi sur les plantes, même celles qui ne sont pas visées. Pour finir, les pesticides vont aussi dans l'eau, et des études ont prouvé que chaque être vivant possède un taux important de pesticides en lui. Il est donc aussi dangereux
pour la santé
de chaque être vivant
d'utiliser les pesticides. Bien, merci pour ce débat sur la radio du collège Sainte-Croix 88.1. Nous vous laissons avec une petite pause musicale. Et n'oubliez pas, Radio Castel, on aime.
On aime.
Vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège privé de Château-Giron.
Restez avec nous parce que la protection de la planète est importante et ça vous instruit.
L'émission continue avec de nouveaux thèmes sur la protection de la planète ainsi que de nouveaux invités.
Bonsoir.
C'est Manon sur Radio Castel 88.1 et nous allons parler de la disparition des Maldives. Située dans l'océan Indien, les îles des Maldives comptent 28 atolls et plus de 1190 îles. 20 d'entre elles sont habitées et on compte en tout 360 000 habitants. Leurs altitudes moyennes culminent à 1 mètre.
Alors maintenant, nous allons parler que les Maldives sont aussi un paradis touristique pour les gens et les touristes. Les Maldives sont un des plus petits États membres de l'ONU. La population s'élevait à 340 000 habitants lors du dernier recensement, tandis que la Banque mondiale l'estimait à environ 417 000 habitants en 2016, située dans l'océan Indien, au sud-est du Sri Lanka.
Épareillées sur 800 km de long de l'équateur, elles abritent environ 3% des récifs coralliens dans le monde.
Ce paysage de carte postale est menacé directement dans les 50 prochaines années par les changements climatiques et la montée des eaux. L'île de Gouredo, dévastée par les tsunamis sans faire de victimes, a déjà subi les assauts de la mer.
Reconstruite aujourd'hui, les habitants de l'île tentent de se protéger en empilant du corail et des sacs de ciment.
Les Maldives risquent fort de disparaître totalement de la surface de la planète à cause de la montée des eaux. 80% des 1200 îles présentes dans l'archipel ne sont qu'à 1 mètre d'altitude au-dessus de la mer.
Selon les prévisions, la totalité des Maldives sera recouverte d'ici une centaine d'années au maximum. La situation est sérieuse, au point que le gouvernement cherche à acheter des morceaux de territoire à des pays voisins, comme l'Inde, pour reloger son peuple.
En 2009, le président Mohamed Nachid a même organisé un conseil des ministres sous-marins pour sensibiliser à ce danger. Et il a averti que les habitants de l'archipel risquaient de devenir des réfugiés climatiques.
Depuis le temps que les experts scientifiques et autres météorologues le répètent, la planète Terre risque de disparaître. Mais vous le savez, nous verrons donc un des plus beaux endroits du globe disparaît englouti par les eaux.
Maldives, Seychelles, Îles Salomon ou encore Venise, si tous ces noms évoquent immédiatement pour vous les vacances, ces magnifiques endroits détiennent aussi pourtant un bien triste point commun. En effet, d'ici l'année 50, on estimerait que tous ces petits coins de paradis risquent bel et bien de disparaître.
Montée des eaux dans certaines zones du globe et catastrophes climatiques annoncées ne sont en effet que les quelques fléaux qui risquent qui risque prochainement de venir à bout de ces îles du bout du monde et de ces endroits de rêve. Et tout de suite, une pause musicale.
Salut!
Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio la plus écoutée du moment. Vous êtes avec moi, Lina, accompagnée de Sarah et Clara. Nous allons vous parler de la déforestation. Tout d'abord, qu'est-ce que la déforestation ?
La déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêt.
Si nous déforestons les arbres, combien perdons-nous d'hectares de forêt dans le monde ?
13 millions d'hectares disparaissent chaque année, soit un terrain de football toutes les 15 secondes.
Waouh, c'est énorme! Et combien d'hectares perdons-nous? Disparaissent en France?
86% de forêts françaises disparaissent chaque année, soit 1% de toute la déforestation dans le monde par an.
Cela fait quand même 29 ans que la déforestation existe. Elle devrait se maintenir au même rythme durant les 20 prochaines années.
Qu'est-ce qui a causé la déforestation?
En Amazonie, l'élevage du bétail est beaucoup plus développé, ce qui cause une déforestation importante.
J'ai cru entendre que les terres agricoles et les incendies naturels provoqués par la foudre, les éruptions volcaniques et beaucoup d'autres choses disparaissent aussi les forêts.
Oui, tout à fait. L'urbanisation et l'exploitation du bois pour le chauffage et nos meubles détruisent également les forêts.
La déforestation est essentiellement due à la conversion des terres agricoles.
L'Amérique du Sud est-elle touchée ?
Oui, l'Amérique du Sud est la plus affectée, juste avant l'Amazonie et la République du Congo.
Y a-t-il des associations pour défendre la déforestation ?
Oui, par exemple, la FAO s'investit beaucoup dans le projet d'arrêter la déforestation. La FAO est une organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
La déforestation a-t-elle des conséquences ?
La déforestation est l'origine de la disparition des deux tiers de la biodiversité mondiale.
Les animaux sont en danger car leurs habitats naturels disparaissent.
Il me semble qu'elle produit également un impact sur le changement climatique. Perdons-nous du CO2 ?
Bien sûr que nous perdons du CO2, car moins d'arbres veut dire moins de CO2, et donc moins d'air pour respirer.
Peut-elle causer des maladies ?
Malheureusement, la déforestation cause des maladies. Elle ne menace pas seulement la biodiversité, mais aussi la santé.
Ainsi, les zones aquatiques se transforment en lieux de transmission bactérienne et les populations locales sont toujours en susceptibles de contracter des maladies. Donc, la planète dénombre environ 200 nouvelles maladies infectieuses.
Maintenant que vous savez tout sur la déforestation, nous vous laissons avec notre générique, en espérant que ce sujet vous a plu.
Bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix à Château-Giron. Et Nora et moi, Laïlou, élèves de 5e marine, allons vous présenter une chronique sur la 6e extinction animale. La 6e extinction, aussi nommée l'extinction de l'Holocène, est le nom d'une extinction massive et étendue des espèces durant l'époque contemporaine. Tous les continents sont concernés par cette dégradation spectaculaire de la biodiversité. Les zones les plus touchées, notamment pour les mammifères et les oiseaux, sont celles situées aux tropiques, Amazonie, bassin du Congo, Asie du Sud-Est, car ce sont les plus riches en termes de faune. Le taux d'extinction actuel pourrait être de 100 à 1000 fois supérieur au taux moyen naturel de l'évolution de la biodiversité, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. En 2007,
l'Union internationale pour la conservation de la nature constate qu'une espèce d'oiseau sur 8, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3 et 70% de toutes les plantes sont en péril, sur les un peu plus de 41 000 espèces qu'elle a évaluées. La sixième extinction animale concerne en particulier les vertébrés. Les chimpanzés, comme beaucoup de grands vertébrés, sont menacés dans de nombreuses régions. C'est ce qu'ils nomment un anéantissement biologique ou encore une défaunation, aux conséquences catastrophiques pour les écosystèmes. Les chercheurs ont alors mené une vaste analyse sur la moitié des espèces de vertébrés connues. Ils ont étudié plus spécifiquement 177 espèces de mammifères. Parmi ces 177 espèces de mammifères, quasiment toutes ont perdu au moins 30% de leur territoire historique depuis 1900, et 40% en ont perdu plus de 80%. L'extinction de masse qui touche la faune a été sous-estimée. Elle est catastrophique, juge-t-il. Au total, 32% des espèces étudiées déclinent en termes de population et d'étendue. Plusieurs mammifères qui se portaient bien il y a une ou deux décennies sont maintenant en voie de disparition. La disparition d'écosystèmes entiers avec leurs végétaux et leurs animaux et leurs micro-organismes est due principalement à l'activité humaine. Parmi les exemples les plus représentatifs, citons les guépards qui ne sont plus que 7000 aujourd'hui contre 100 000 en 1900. Les lions aussi étaient 43% plus nombreux il y a 25 ans. Les grands singes sont aussi concernés car leur territoire recule. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Enora qui va vous expliquer les causes de cet anéantissement biologique.
Bonsoir, Enora à l'antenne. Je vais poursuivre la chronique sur la sixième extinction animale. Les premières causes pointées sont les pertes d'habitat, des territoires volés ou dégradés par l'homme pour ses besoins, déforestation, agriculture, routes, urbanisation, exploitation minière et pétrolière, etc. Les autres causes sont la chasse et le braconnage, la surpêche et désormais le changement climatique, lequel ne cesse de s'intensifier. La cause principale des extinctions animales est l'activité humaine. Voici des exemples de causes, directes ou indirectes, à travers le temps. Pendant la préhistoire, les causes principales sont la surchasse de grands animaux, mammouths, la transformation de milieux par incendie conduisant à de grandes destructions de forêts, le déchiffrage, la culture qui se répand, le transport d'espèces dans un autre habitat qui provoque une confrontation avec l'espèce locale et qui conduit à leur disparition. Pendant la période moderne, les principales causes sont, selon l'ONU, Organisation des Nations Unies, il y a 5 causes majeures. 1. La modification des habitats des espèces. 2. La surexploitation. 3. La pollution. 4. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes. 5. Le changement climatique. Mais nous pouvons rajouter une sixième raison qui est la culture intensive et massive. La crise est plus grave qu'on ne le pensait. 32% de ces espèces sont en déclin, y compris celles dites peu concernées. Au total, plus de 50% des animaux ont disparu depuis 40 ans, estiment les scientifiques. Des conclusions confirment celles du dernier rapport Planète Vivante, publié en octobre 2016 par le Fonds National pour la Nature. Ils estiment que la population de vertébrés a chuté de 58% entre 1970 et 2012. La chronique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura appris et sensibilisé sur la destruction animale et végétale causée par l'homme. Je vais maintenant vous laisser avec une pause musicale.
Au revoir.
L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui. L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui.
L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui.
Radio Castel, on aime.
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 We'll be right back.
Bonjour et bienvenue sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. C'est Thomas, Théo et Louis avec vous.
Aujourd'hui, nous vous amenons dans les profondeurs marines pour vous parler de la destruction des coraux. J'ai une première question. Thomas, pourquoi les coraux sont importants ?
Les coraux jouent un rôle important pour la protection des poissons et toute espèce marine. Ils ont aussi un rôle dans la préservation de l'environnement. Ils sont des êtres vivants et une source de beauté pour notre planète.
Thomas, pouvez-nous nous dire pourquoi les coraux sont menacés ?
Les récifs coralliens sont dégradés par une accumulation de contraintes résultant des activités humaines. La surpêche, la pollution et le développement côtier sont en tête de la liste des facteurs de stress chronique. Certains récifs coralliens sont recouverts de sable, terre pas chère stimulant le développement économique. De plus, les changements globaux à long terme, les tempêtes, les tremblements de terre et autres contraintes affectent également les récifs coralliens.
Maintenant, Louis va nous parler des méthodes de pêche destructrices pour les coraux.
La pêche à la dynamite et au cyanure rend les poissons plus faciles à attraper. Ces pratiques ne permettent pas de cibler une espèce, elles détruisent tout là où elles sont appliquées. Endommager l'habitat des récifs coralliens a des conséquences sur tout l'écosystème récifal. Et de ce fait, un impact immédiat sur subsistance des pêcheurs concernés.
Passons maintenant à la pollution avec Théo.
Les récifs coralliens ont besoin d'eau pauvre en minéraux pour se développer. La pollution par les activités humaines terrestres, lorsqu'elle est transportée par les rivières dans les eaux, et peut endommager les récifs coralliens. Les déchets, les cargos, échoués et autres dégâts sont en tête de la liste des dangers pour la vie des coraux.
Thomas, la surpêche est aussi une menace pour les coraux. Parlez-nous-en.
L'augmentation de la demande des poissons a abouti à la surpêche d'espèces récifales. La surpêche de certaines espèces peut facilement affecter l'équilibre écologique et la biodiversité du récif. Par exemple, la surpêche des poissons peut conduire à des niveaux élevés de croissance algale, asphyxiant le corail présent.
Nous allons passer au tourisme non durable, une grande menace pour les coraux avec Louis.
Le tourisme génère de grandes quantités de revenus pour les pays d'accueil. Lorsqu'elles ne sont pas réglementées, les pressions de tourisme peuvent causer des dommages sur l'environnement. Plongeurs négligents, ancre de bateaux mal placées, hôtels évacuant les eaux usées, non traitées et surtout la capture de coraux pour des aquariums.
Nous allons à présent vous parler de la Grande Barrière de Corail où une très grande partie des coraux sont présents.
Située dans l'océan Pacifique, la Grande Barrière de Corail australienne est le plus grand système corallien et la plus grande structure vivante de la planète. Elle est l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Elle est également visible depuis l'espace.
Je peux rajouter que la taille et l'énorme diversité de la Grande Barrière de Corail en font l'une des plus grandes, complexes et riches écosystèmes de la planète. Elle est très importante pour la biodiversité et la conservation de certaines espèces marines.
Malheureusement, elle est en danger, car l'année 2016 a été la pire période de blanchissement pour les coraux. Provoquée par la hausse de température de l'eau, elle a perdu en moyenne 67% de ses coraux en quelques mois.
Avant de se quitter, comment préserver les coraux ?
Pour préserver les coraux, il faut éviter de naviguer et de pêcher à proximité d'un récif de corail. Car des objets comme les ancres et les filets de pêche peuvent les endommager. Ne pas jeter des déchets dans l'océan ou sur une plage.
Il ne faut pas emporter ou acheter de coraux car il faut beaucoup de temps aux coraux pour se développer.
Il faut également penser à ne pas polluer et surtout à lutter contre le réchauffement climatique. Une élévation de la température des eaux océaniques a des conséquences très négatives sur les coraux. Pour conclure, contribuez à tous ces conseils et les coraux seront mieux préservés et protégés de la destruction qui les frappe actuellement.
C'est la fin de la chronique sur la destruction des coraux. C'était Thomas, Louis et Théo sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix, et nous allons vous quitter sur une petite pause musicale.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1. C'est Raphaël, et aujourd'hui nous allons parler de la mer d'Aral. Pourquoi la mer d'Aral, me diriez-vous ? Car, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grosses catastrophes environnementales du XXe siècle. Pour ça, nous allons accueillir deux spécialistes de la mer d'Aral, Adrien et Auxin.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons commencer directement avec la première question. Pourquoi la mer d'Aral est-elle une catastrophe ?
C'est une catastrophe car ce lac d'Asie centrale faisait, en 1960, environ 66 428 km², soit plus de deux fois la superficie de la Belgique. Longue de 428 km² et large de 284 km, en 2000, cette superficie a été divisée par deux.
C'est à cause d'un assèchement, dû au détournement des deux fleuves, le Sindaria et l'Amudaria, pour produire du coton.
Ah oui, quand même. Alors merci. Maintenant, pouvez-vous nous parler de la mer d'Aral ?
La mer d'Aral est un lac d'Asie centrale. Elle est située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.
Mais six pays se partagent le bassin de la mer d'Aral. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Afghanistan.
Une mort de la mer d'Aral est programmée pour 2025. La construction d'un barrage en béton va être mise en place, ce qui va permettre à la petite mer de regagner environ 500 km². Ce projet est estimé à 98 millions d'euros.
Les informations sont vraiment intéressantes.
Dans sa forme actuelle, la mer d'Aral est la même qu'il y a 10 000 ans. Les eaux de la mer d'Aral sont peu salées. Depuis 1960, la mer d'Aral a perdu 14 mètres de profondeur et 90% de son volume.
Merci de nous avoir suivis, c'était Raphaël, Adrien et Auxence sur Radio Castel. Restez avec nous tout de suite avec une pause musicale. N'oubliez pas,
Radio Castel, on aime.
L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui. L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui.
L'homme est le premier animal
qui détruit son environnement
et tout ce qui vit autour de lui.
C'est la fin de notre émission. J'espère que grâce à vous, vous aurez plus de culture générale. Et bien sûr, j'espère que cela vous a plu.
Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Restez avec nous, la radio favorite des collégiens du Collège Saint-Denis.
Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h pour la suite de votre émission préférée.